BFM Business présente les experts de l'IMO, Marie-Cœur de Roy.
Et les experts de l'IMO, c'est tout de suite à l'heure du déjeuner. Il est midi, mais d'abord un rappel de l'actualité du jour et la reprise du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz. Selon la plateforme Kepler, au moins 36 navires de matières premières ont franchi le détroit hier. Un record depuis le début de la guerre au Moyen-Orient et près d'une semaine après la conclusion d'un protocole d'accord entre les États-Unis et l'Iran. L'Iran qui précise tout de même aujourd'hui que l'administration du détroit ne redeviendra jamais ce qu'elle était avant la guerre. En attendant, les cours du pétrole repartent à la baisse avec un baril de Brent autour des 77 $ semi. Midi. Enfin, conséquence de la canicule, EDF annonce la mise à l'arrêt de sa centrale nucléaire située dans le Tarn-et-Garonne, entre Toulouse et Agen. L'entreprise anticipe une montée de la température du fleuve au-delà de la limite qui lui permet de refroidir les réacteurs. Les eaux de la Garonne devraient dépasser dans la journée les 28 degrés. Allez, c'est l'heure des experts de l'IMO.
Votre programme avec Bien Ici.
On est bien ici.
Trouvez votre futur logement par vie de quartier et temps de trajet sur bienici.com. BFM Business présente les experts de l'IMO, Marie-Cœur de Roy.
Et les experts de l'IMO, c'est tous les jours à l'heure de votre déjeuner, une demi-heure pour parler de notre immobilier, de nos logements. Et comme tous les jours, ça démarre par cette séquence qui vous concerne, amis professionnels de ce secteur de l'immobilier, et qui nous concerne, les usagers de cet immobilier et de ces logements, le pro de l'IMO, des témoignages terrain de vos métiers. Et aujourd'hui, on va même faire la promo d'un bien à vendre. Et si on partait sur une petite île, acheter une jolie maison à près d'un million d'euros? C'est ce que va nous proposer notre pro de l'IMO du jour. Et attention, c'est en Île-de-France en plus. Après, on sera de retour en plateau pour le débat du jour. On fera pas l'impasse sur la canicule, évidemment. On a chaud. Est-ce qu'enfin les pouvoirs publics vont prendre la mesure de ce dérèglement climatique? Est-ce qu'il faut lutter contre les passoires thermiques, mais aussi contre les bouilloires thermiques? Est-ce que le risque, c'est pas à force de lutter contre les passoires, de créer les bouilloires de demain? On essaiera de faire le point sur la situation actuelle et comment on peut améliorer justement la performance énergétique de nos logements, quel que soit le contexte extérieur. Allez, c'est l'heure du pro de l'IMO d'abord.
Les experts de l'IMO, le pro de l'IMO.
Et Luigi, l'agent immobilier, l'adresse à Nogent-sur-Marne, vous propose un bien exceptionnel à la vente. Bonjour Louis.
Bonjour à tous.
Bon alors, faut prendre le bateau pour y arriver quand même, Louis. Hein.
Exactement. La contrepartie, c'est qu'il va falloir prendre la barque pour aller voir cette maison. On n'a pas d'autre choix que ça.
Oui, alors là, avec la chaleur en plus en Île-de-France, je me vois bien en train de bagayer pour aller rejoindre le logement. Alors dites-nous de quoi vous nous parlez comme bien assez dingue quand même, on va le dire.
Alors, ici, à Nogent-sur-Marne, on a une petite île sur un bras de Marne. Donc, c'est vraiment juste en face du quai, qui est accessible uniquement en barque. Et sur cette petite île, on a quelques maisons. Et on en commercialise une actuellement. Donc, on a à peu près 1200 m² de terrain. Et puis, on a à peu près 120-130 m² habitables dans cette maison.
Et je le disais, pour un petit peu moins d'un million d'euros, 950 000 euros.
Exactement. C'est son prix de mise en vente, c'est 950 000 euros. Prix de mise en vente qui a pas été forcément très évident à déterminer, puisque très rare, en même temps très particulier.
Oui, parce donc, que j'ai envie de dire, il est à ce point particulier, j'ai envie de savoir qui veut. Alors, vous allez dire que c'est une réflexion idiote, hein, mais quand on est parent avec des enfants, parce que évidemment, j'imagine qu'une maison de 120 mètres carrés, c'est rarement pour un célibataire tout seul. Et je me dis, s'il y a le moins de soucis, il faut prendre la barque. Enfin voilà, je sais pas quel type de clientèle vous visez pour acheter ce bien alors, immobilier.
C'est exactement ça. Dans tous les cas, on doit passer par la barque. Ça, c'est sûr et certain.
Donc on ou a, être très on bon dire, nageur, mais bon, du coup, c'est pas
possible. Ou être très bon nageur parce que c'est pas très loin. Je vous l'accorde qu'à la nage, ça peut encore marcher, surtout quand il fait 40 degrés comme en ce moment. Maintenant, on va se dire qu'au quotidien, on va plutôt penser à la barque et on a identifié deux typologies de clients particuliers. On va dire plutôt la résidence principale classique où en effet, on a ce cadre de vie calme, très proche de la nature, vraiment particulier. Et la contrepartie, c'est une organisation avec la barque. Alors nous, avec cette maison, on a deux embarcations, donc qui permet quand même.
Vous voulez dire qu'il y a, qu'est-ce que vous appelez, il y a deux barques qui sont vendues à l'intérieur des 950 000 euros. J'ai les deux barques avec, c'est ça?
Pour 950 000 euros, vous avez une maison et deux barques.
Et c'est exactement ça. Attendez, j'ai le ponton et tout, c'est à moi.
Vous avez le ponton, il y a une toute petite redevance pour le ponton qui est d'environ 300 euros à l'année.
D'accord.
Et vous avez deux barques. Donc, les deux barques sont équipées de moteurs électriques et permettent de
traverser. Ah, il y a des petits moteurs.
Ah ouais, mais alors, on traverse.
C'est des tout petits moteurs parce que sinon, il faut son permis bateau. Je crois que c'est à partir de 10 chevaux, si je dis pas de bêtises, non?
Oui, c'est ça. Alors, je crois que c'est un petit peu plus de chevaux, mais bon, en l'occurrence, ça a peut-être changé.
Moi, je me souviens qu'à une époque, ils avaient créé des moteurs de 9 chevaux neufs pour justement ne pas nous forcer à passer le permis bateau.
Ça a peut-être changé. Ouais. Non, là, on n'a pas besoin de qualification particulière pour traverser. Mais bon, là, j'avoue que le petit coup de pouce du destin avec la canicule et les 42 degrés nous aide plutôt à vendre ce type de maison-là. C'est maintenant que ça peut faire envie.
Bah non, mais c'est sympa. Et puis en plus, on voyait les photos à l'écran. J'avoue que ça donne quand même sacrément envie. Après, une fois que j'ai pris la barque, il y a les transports. C'est à combien de Paris? C'est comment en termes de localisation?
Exactement. Alors, ouais. L'avantage en réalité de cette maison, ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est qu'il y avait deux typologies de clients. Donc la résidence principale à peu près classique, mais aussi on se disait pourquoi pas la résidence secondaire en gardant son appartement parisien et en récupérant cette maison-là qui est à 20 minutes en voiture de Bastille,
ah ouais,
40 minutes en vélo. Donc on est vraiment tout proche de Paris, nous. Hein. Donc c'est vraiment l'avantage, et de se dire que ça peut être un dépaysement total, mais accessible, ouais, en vélo.
Et juste d'un mot quand même, Louis, le DPE, le diagnostic de performance énergétique, ça nous passionne dans cette émission.
Oui. Le DPE, DPE, DPE-E sur cette maison.
Pas foufou quand même.
Après, là, on est sur une maison de 1890 avec beaucoup d'histoire. On a encore la porte d'origine avec le verre biseauté dessus. Donc, il y a des éléments
c'est
forts
vendu,
aussi
c'est
qui ont
été. C'est bien vendu.
Ouais, mais disons qu'il y a des éléments
forts
de cette maison.
Il y a la clim, ou pas, parce que c'est une grosse question d'Alban.
Pas de clim. Mais pourquoi avoir la clim quand on a la Marne aussi proche?
Ah, bah voilà, bah c'est parfait. Et en même temps, ça nous permet après d'embrayer sur notre débat du jour. Merci Louis Gilles, agent immobilier, l'adresse à Nogent-sur-Marne, qui nous proposait à la vente un bien super. Bon, il faudra juste prendre la petite barque, mais franchement, il est assez chouette. Si vous pouvez nous regarder et nous remettre en vision, la maison, elle est quand même assez chouette. Elle est à côté de Paris et elle est à 950 000 euros avec deux barques inclus dans le prix. Merci Louis. Allez, c'est l'heure du débat.
Les experts de l'IMO, le débat.
Ouais, c'est dommage, on n'avait pas les deux barques d'ailleurs affichées à l'écran. J'aurais bien aimé voir si on avait les deux petites barques.
Avec le petit ponton.
Avec le petit ponton, le petit moteur. Alors, Audrey Servati, directrice de la stratégie des filles, est avec nous. Bonjour, Audrey.
Bonjour, Marie.
Et également à nos côtés, Pierre-Louis Gure, cofondateur et CEO d'Argile.
Bonjour Marie.
Bon, écoutez, on va faire le lien entre ce qu'on venait de se dire, parce qu'on parlait de DPE, on parlait de canicule. On va pas se cacher derrière notre petit doigt. En ce moment, il fait chaud, ça tape sévère, et on se pose la question de nos travaux de rénovation. Je suis obligée de le faire quand même. La clim, bien ou pas bien? Je suis obligée de le faire. Je sais, vous me regardez tous. Oh non, pas vous, Marie. Pas ici, pas sur BFM Business. Mais quand même, on va le faire.
Alors, pas dogmatique. Par contre, peut-être qu'il faut réfléchir à d'autres choses et anticiper maintenant ces vagues de chaleur. On commence à les voir de plus en plus fréquentes. Et donc, premier geste, et ça on le dit et le redit à nos clients, c'est l'isolation. Donc, quand vous avez un logement qui est isolé, c'est la meilleure barrière quand même à la résistance de votre logement sur ces vagues de chaleur. Donc, isolation de vos murs, mais aussi isolation de vos combles, parce que la chaleur...
C'est le grand combat d'Audrey, elle nous le disait en antenne. Mais bon sang, les gens vont-ils m'écouter?
Compliqué de faire comprendre. Autant l'hiver ça passe bien, en fait on comprend bien qu'il faut isoler ses combles pour réchauffer sa maison, mais c'est la même chose pour la rafraîchir, puisque aujourd'hui une isolation des combles avec un isolant, alors même de la laine de verre, mais aussi ça peut être des isolants qui sont biosourcés, vous avez jusqu'à 2-3 degrés de gain. Donc ça vaut vraiment le coup de regarder, et c'est des travaux qui sont assez rapides à réaliser, puisque ça se fait en 2-3 heures. C'est pas très cher. Hein. On est sur 100 mètres carrés, entre 1500. Il y a encore des aides. Hein. Il y a les certificats d'économie d'énergie. Donc voilà. L'isolation, c'est le premier geste. Et une fois qu'on a fait ça, dans ce cas-là, on peut réfléchir à les solutions, on va dire, pour rafraîchir avec un équipement électrique. Et là, il y a la solution d'urgence dont tout le monde parle aujourd'hui, qui est la climatisation, ce que j'appelle le monobloc sur roulette que vous allez acheter.
J'ai regardé, je vous le dis.
Allez acheter dans une grande surface de bricolage.
Moyennant quelques centaines d'euros.
Voilà, moyennant, ça c'est la solution.
On a même au-delà de 1000 euros.
Mais... Voilà, c'est ça. Vous avez tous les prix, mais c'est vrai que ça commence à 150 euros. Donc c'est la solution d'urgence, c'est vraiment une solution d'appoint, parce que ça fait du bruit. c'est encombrant et en plus c'est pas du tout performant énergétiquement. Donc c'est vraiment une solution d'urgence avant de passer à une solution plus pérenne qui est la climatisation réversible, la pompe à chaleur RR. Exactement. Et donc là, cette solution-là, alors elle s'anticipe un peu parce que encore une fois, entre le moment où vous allez éventuellement venir chez EFI pour pouvoir demander une pompe à chaleur RR et le moment où on va venir vous en installer, il peut se passer un peu de temps, notamment quelques semaines, puisque là, on a quand même beaucoup de demandes.
Alors, vous me donniez les chiffres quand même d'un mot, Audrey, vos chiffres de demande de PAC RR.
Et donc, c'est vrai que c'est assez inédit, puisqu'on a multiplié par 5 en 2 ans les demandes sur une semaine, comme la semaine dernière, sur uniquement ce type de travaux. Ça représentait 10% de nos demandes en 2024, et ça représente aujourd'hui 44% sur cette semaine de juin, et hier, 66%. Donc, on a une évolution très importante en l'espace de 2 ans de demande de solutions de PAC RR qui est reconnue aujourd'hui comme la meilleure solution. Pourquoi ? Parce qu'elle fait le froid l'été et puis elle le chaud l'hiver avec des performances intéressantes. Donc même si vous consommez plus l'été et donc vous dépensez plus pour consommer, en fait vous allez faire des économies l'hiver. Donc au total, c'est un gain sur la facture en termes de performance.
Alors on l'apprend la PAC RR, Pierre-Louis, c'est bien finalement parce que c'est de la climatisation quand même. Moi, on m'a dit c'était mal la climatisation.
En fait, comme le dit très bien Audrey, il n'y a pas de solution magique. C'est pour ça que moi, j'adore ce secteur-là. C'est qu'on parle du confort d'été ou confort de l'hiver. Eh bien, on a plein de solutions à mettre en place et il faut réussir à bien comprendre le logement. Donc là, bien comprendre le logement, c'est trouver en fait toutes les sources d'inconfort qu'on peut avoir et puis trouver en fonction du budget, en fonction des particularités, eh bien, qu'est-ce qu'on va mettre en place. Donc quand on parle du confort d'été, eh bien on va déjà se poser la question par exemple de végétaliser. Donc là ça va être plutôt des questions qui vont être répondues par notre municipalité. Comment est-ce qu'on peut plus végétaliser notre ville? Et puis au sein de notre logement, eh bien effectivement commencer par des gestes simples. Par exemple, comment est-ce qu'on peut mieux ventiler le logement? Comment est-ce qu'on peut empêcher la chaleur d'entrer dans le logement? Et puis ensuite, comment est-ce qu'on peut, pour l'empêcher, une autre solution, c'est évidemment la résistance thermique des isolants. Donc on va mieux isoler notre logement pour éviter que ça rentre. Et puis, une fois que c'est rentré, il faut la faire sortir. Et là, la clim peut être intéressante. Il y a eu tout un retour de la climatisation ces dernières années parce qu'on a aussi une technologie qui a évolué. La climatisation, elle a été très décriée il y a une dizaine d'années du fait des fluides qui ont un pouvoir réchauffant lorsqu'ils fuitent.
C'est ça, parce qu'on nous explique depuis le début, en gros, tu refroidis l'intérieur, mais tu réchauffes l'extérieur et c'est le serpent qui se mord la queue.
C'est ça. Et donc, ça réchauffe parce que, en fait, les clims ont toujours un petit peu de fuite. Et si ces fuites-là viennent accélérer le réchauffement climatique, eh bien, c'est une solution très court-termiste. Heureusement, maintenant, on a des technologies de pompe à chaleur ou de climatisation qui sont beaucoup plus performantes et respectueuses de l'environnement.
Sur cette histoire de pollution, il faudrait vraiment distinguer deux choses. Il y a la chaleur qu'on perçoit parce qu'effectivement, le principe de la pompe à chaleur RR, c'est de refroidir à l'intérieur et de rejeter les calories chaudes à l'extérieur. Ça, ça n'a pas d'impact sur le changement climatique. Ça a un impact sur le réchauffement local. Donc, ça va faire des îlots de chaleur. Donc, dans les quartiers, effectivement, dans les villes, notamment quand c'est très dense, c'est pas génial. En revanche, ce qui va avoir un impact sur le réchauffement climatique, c'est les fluides frigorigènes qui sont dans la pompe à chaleur. Et effectivement, c'est quand il y a des fuites qu'il y a une question, parce qu'elles ont un pouvoir de gaz à effet de serre beaucoup plus importante que le CO2, au moins 150 fois et beaucoup plus. Et là, il y a effectivement une amélioration de la performance, comme le disait Pierre-Louis, mais il y a aussi une interdiction par l'Europe, qui va s'imposer jusqu'en 2030 contre ces fuites dès lors qu'ils ont un gros pouvoir de gaz à effet de serre.
Donc on va faire en gros des PAC RR de plus en plus vertueuses.
Exactement, de plus en plus vertueuses sur ces fluides et de plus en plus vertueuses sur leur consommation d'énergie, puisque moi je crois fortement au combo pompe à chaleur RR et panneaux solaires. J'en avais déjà parlé ici la dernière fois que vous m'avez invité. Et donc c'est vrai que ce combo-là, ça permet aussi de consommer de l'énergie renouvelable à des moments où justement il y a du soleil et on a besoin de fraîcheur dans la maison. Et donc c'est le parfait alliage.
Pierre-Louis, juste, j'ai Alban, notre réalisateur que je salue de l'autre côté du plateau, qui me dit « Mais ils font quoi déjà, Argile ?» Oui. C'est vrai, on va le rappeler, parce que EFI, c'est vrai qu'on a l'habitude d'Audrey, hein. On sait que si vous avez besoin d'un conseil en réno et que vous voulez lancer une rénovation, quelle qu'elle soit, par geste, ou les réno globales, il faut appeler EFI parce que c'est eux qui vont filer les bons conseils. Qu'est-ce que vous faites? Rappelez-nous déjà, Charles.
Bien, Charles, donc notre conviction, c'est qu'il faut mieux comprendre le bâti. Mieux comprendre le bâti avant les travaux pour savoir qu'est-ce qu'on veut faire, mieux comprendre pendant les travaux pour s'assurer que les gestes ont bien été réalisés, et puis après les travaux pour s'assurer que la consommation, que les résultats sont bien ceux escomptés. Ouais, Donc nous, on fournit toute cette solution aux pros du secteur, comme EFI et tant d'autres acteurs, qui permettent du coup de pouvoir vraiment expliquer et de valoriser l'expertise de ces artisans, de tous ces pros auprès des particuliers, des collectivités, des copropriétés, du tertiaire, pour bien montrer qu'est-ce qu'il y a concrètement dans le logement, dans le bâtiment, et pouvoir l'améliorer.
Vous avez des datas hyper précieuses et vous pouvez conseiller essentiellement le B2B du coup.
Voilà, nous on n'intervient pas directement auprès du particulier, mais on vient s'assurer auprès du particulier que l'artisan qui travaille avec Argile, eh bien il fait bien les choses et on a tout un parcours qui est auditable de bout en bout. Un exemple qu'on aime bien donner, c'est si vous faites un achat en ligne, eh bien derrière c'est ultra compliqué, qu'est-ce qui va se passer? On a toute une de la logistique. Mais pour vous, c'est très simple, vous avez un bouton, vous appuyez dessus et vous savez que le colis, vous allez le recevoir.
Ouais.
Quand on fait de la rénovation, malheureusement, aujourd'hui, on croise un peu les doigts et on espère que ça se passe bien. Et heureusement, le secteur est en train de s'améliorer et nous, on participe à cette amélioration en rendant tout ce parcours ultra clair, ultra limpide et auditable de bout en bout.
Et on en avait besoin, d'autant que je reboucle la boucle sur notre sujet du jour. J'espère qu'Alban est éclairé en régie et vous, auditeurs et téléspectateurs, je reboucle la boucle sur les faits de l'histoire d'Ivoire Clair. C'est-à-dire qu'entre les aides publiques, mais aussi la politique publique au sens large. En ce moment même, là, on a le ministère du Logement qui présente aux journalistes, avant de présenter officiellement au Conseil des ministres, son projet de loi logement. On sait que parmi les grandes lignes de ce projet de loi logement est prévu notamment un assouplissement des règles sur le calendrier de rénovation, d'obligation de rénovation des passoires thermiques dans le parc locatif. Est-ce que en termes de message, au moment où la canicule bat son plein et où on dit certes on peut mettre de la clim, mais il faut quand même s'assurer qu'avant tous les travaux de rénovation ont été bien faits, ce qui n'est pas compliqué à entendre aujourd'hui ce message?
Je pense que vraiment il y a tout un enjeu à conserver cette interdiction de location. Cette interdiction de location, elle a été adoptée suite à la Convention citoyenne pour le climat, et c'est vraiment un acquis très fort de se dire aujourd'hui, quand on a un logement qui n'est pas performant énergétiquement, il doit être réalisé des travaux dans ce logement pour pouvoir être loué. Donc ça, c'est le principe. Ce principe, il est extrêmement important, mais il est aussi fragile. On voit qu'il est beaucoup attaqué, notamment dans le cadre de la pénurie de logements mis à la location. Et donc, de donner des flexibilités, là, en l'occurrence, c'est l'engagement et non plus... En fait, jusqu'à présent, jusqu'à ce que la loi, elle n'est pas encore adoptée, mais en tout cas, avant cette loi,
ouais.
C'est le fait de dire, vous ne pouvez pas mettre en location si vous n'avez pas réalisé les travaux. Là, on donne une souplesse au propriétaire bailleur, on lui dit, vous pouvez louer et réaliser les travaux dans les quelques mois qui vont arriver. Donc, on va donner une souplesse au propriétaire bailleur. Ça ne veut pas dire qu'on revient sur le principe, mais on donne des modalités
d'action. C'est ça, on leur dit, vous aurez, là, c'est 3 ans de plus pour les maisons louées, 50 plus pour les appartements loués, moyennant quoi, il faut quand même que le propriétaire bailleur s'engage à dire je vais faire les travaux quand même.
Voilà. Mmh.
Mais malgré tout, pardon, je repose la question, mais compte tenu du contexte aujourd'hui, on les voit, les reportages chez nos confrères de BFM TV avec des étudiants sous les toits de Paris qui ont 40 degrés à l'intérieur, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un sujet autour de se dire, à force de nous dire mieux vaut avoir un toit pourri sur sa tête que de dormir sous les ponts, aujourd'hui j'ai un doute quand même. En période de canicule.
Nous, on voit aussi quand même toute une complexité du parcours. En mai, il y a eu un débat sur est-ce qu'on vient décentraliser l'action de l'Agence nationale de l'habitat.
L'ANA, qui distribue MaPrimeRénov.
C'est ça. Donc, on vient la décentraliser pour potentiellement que chaque territoire puisse appliquer ses propres règles. Alors, pourquoi pas? Parce qu'effectivement, entre chaque territoire, on ne vient pas rénover la même maison en Alsace qu'on va le faire à Paris ou à Marseille, bien évidemment. Et en même temps, on a quand même un gros souci de complexité sur les parcours. Les artisans, avant d'utiliser Argile, ils passaient plus d'une journée par semaine à faire de l'administratif. Et ça, c'est quand même un petit peu dommage. On vient les assommer...
Au lieu d'être sur le chantier, quoi.
C'est ça. On vient les assommer sur de l'administratif. Donc forcément, les chantiers vont prendre plus de temps. Et donc, le gain n'était pas forcément là. Donc, on a eu tout un retard sur les dossiers MaPrimeRénov. Maintenant, la bonne nouvelle aussi, c'est que l'ANA a fait beaucoup de progrès sur la gestion de ces dossiers. Et on voit vraiment un temps d'attente qui a chuté véritablement. L'année dernière, les artisans nous parlaient de plus de 18 mois d'attente quand même sur certains dossiers, ce qui était absurde. Et là, on voit quand même une fluidification du parcours. Donc, c'est aussi une bonne nouvelle pour les particuliers qui souhaitent entreprendre des travaux et se dire, OK, là, c'est peut-être le bon moment parce qu'on a des parcours quand même qui vont aller plus vite qu'auparavant.
Encore faut-il faire les bons travaux, et c'est là où on va reboucler la boucle sur les chaleurs du moment. Est-ce qu'à force de lutter contre les passoires thermiques, on n'est pas en train de créer les bouilloires thermiques de demain ? C'est une question très sincère que je vous pose, parce qu'effectivement, à trop isoler, est-ce que le risque, c'est pas qu'il fasse trop chaud ? Est-ce qu'il y a des gestes qu'il vaut mieux privilégier plutôt que d'autres ? Comment je prends en compte ce confort d'été, quand on regarde les diagnostics de performance énergétique, il y a un tout petit indicateur de rien du tout qui dit confort d'été bon, moyen ou insuffisant, l'essentiel étant dans moyen ou insuffisant d'ailleurs. Est-ce qu'il ne serait pas temps de changer un tout petit peu notre manière de mesurer le vrai confort d'été et donc d'identifier ces bouilloires thermiques au même titre que les passoires thermiques ?
Ouais.
Oui, mais peut-être un mot là-dessus. Je pense qu'effectivement, il y a une question d'équilibre à avoir. On a beaucoup focalisé sur le confort d'hiver, hein, et c'est vrai que c'est normal parce que c'était un enjeu vraiment de précarité énergétique. Et là, depuis quelques années, on nous alerte, et à juste cause, des bouilloires thermiques. Donc, c'est sûr qu'on a un enjeu d'équilibre à trouver sur les indicateurs, sur le froid et sur le chaud, quelque part. Dans le cadre du diagnostic de performance énergétique, on vient d'en parler, en fait, c'est quelque chose qui a mis du temps à se construire, la méthodologie qui est encore revue de manière assez fréquente et discutée, souvent.
Et discutable aussi.
Et discutable, peut-être, oui. Mais en tout cas, nous, en tout cas, on pense qu'aujourd'hui, il y a une question, il y a un enjeu à stabiliser ce diagnostic de performance énergétique pour des questions de confiance, de la même façon qu'on doit stabiliser aussi cette interdiction de location des logements pour les passoires, parce que c'est une question de confiance et de crédibilité des dispositifs. En revanche, de pouvoir prendre beaucoup mieux en compte sur ces diagnostics de performance énergétique, peut-être pas dans la méthode d'établissement de la note, mais dans cette indication à donner sur la bouilloire et sur le confort d'été, c'est évident que ça doit s'améliorer. Je rappelle que dans le cadre de ma prime Rénov rénovation d'ampleur, des travaux de confort d'été, notamment tout ce qui était volet roulant, etc., étaient compris, les brasseurs d'air, étaient compris dans ma prime Rénov. Ne sont quasiment plus, puisque vous savez, ma prime rénovation d'ampleur a été fortement diminuée, et donc il va falloir faire des choix dans une enveloppe, et peut-être que malheureusement, ce qui va passer à la trappe, ça va être plutôt ces équipements un peu en extra pour le confort d'été, et c'est bien dommage.
En extra, mais c'est affligeant. Pierre-Louis ?
Non, effectivement, il faut bien se rappeler, donc ça a servi de signal prix sur le marché immobilier. Ouais. Donc, par exemple, quand vous achetez une maison dans l'Est de la France, vous pouvez avoir une décote de plus de 10% si jamais vous habitez dans une passoire thermique. Et ça, c'est une incitation très forte pour que les propriétaires
fassent les travaux
en disant, plutôt que de placer de l'argent dans mon livret A, en fait, je le place dans mon logement.
Ça va revaloriser mon patrimoine.
Ça revalorise, du coup, je gagne en confort, je fais baisser mes factures énergétiques, c'est génial. Donc effectivement, Audrey l'a bien souligné, on a besoin d'un indicateur pour venir éclaircir ce marché et lui permettre de comprendre dans quoi est-ce qu'on investit et puis aussi comment est-ce qu'on peut l'améliorer.
Mais donc sur ce principe d'identifier ces bouilloires, je rappelle, il y a un an tout pile, c'était en juin 2025, il y a une proposition de loi qui avait été déposée par le député socialiste, à l'époque pas encore maire de Paris, Emmanuel Grégoire. Il visait justement à créer un indicateur fiable sur les bouilloires thermiques et à les soumettre à moyen long terme aux mêmes obligations de rénovation que les passoires thermiques. Ce texte, il n'a jamais été placé à l'ordre du jour. Est-ce qu'il n'y a pas un problème à ce niveau-là? Est-ce qu'il ne faudrait pas, et c'est la question que je vous pose, soumettre aux mêmes obligations les bouilloires, pareil que les passoires?
Donc, il y a eu différents groupes de travaux, notamment donc, le CEREMA, le CSTB, donc les centres de recherche scientifiques, mais aussi chez RG, on a établi notre propre méthodologie pour pouvoir établir le confort d'été.
Qu'est-ce qu'une bouilloire thermique?
Qu'est-ce qu'une bouilloire thermique? Et puis, du coup, quelle est l'influence qu'on peut avoir quand on va appliquer tel isolant sur les planchers hauts, sur les planchers bas, sur les murs? Et en fait, il y a des résultats assez étonnants. Par exemple, on a pu constater que poser une isolation par l'intérieur sur de l'ancien, eh bien, ça peut dégrader légèrement le confort d'été. En revanche, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, de manière globale, l'isolation va vous permettre d'améliorer le confort d'été. Et ça, quel que soit le matériau, on peut même l'améliorer légèrement plus en venant travailler sur des matériaux biosourcés. Mais voilà, il faut bien réfléchir le logement, bien le comprendre pour pouvoir trouver la bonne solution.
Vous voulez dire que c'est difficile d'identifier véritablement ce qu'est une bouilloire parce que les indications peuvent changer d'un bien à l'autre, en fait.
C'est ça, il faut vraiment prendre le bien dans sa globalité. Il n'y a pas de recette magique, on ne peut pas juste appliquer avec 2-3 indications. On doit identifier le logement en entier pour pouvoir travailler sur sa dynamique, savoir comment est-ce qu'il va stocker, rejeter la chaleur. C'est passionnant, mais c'est assez complexe et c'est encore différents groupes en train de travailler dessus.
Et c'est pour ça qu'on le fait pas.
Mais je pense que en fait, il faut bien distinguer. Il y a les interdictions qu'on va pourrait mettre en place, et il y a aussi derrière le bon sens des particuliers qui vont demain acheter des logements. Si au regard des vagues de chaleur qu'on a vécues, on peut se dire que demain, quand ils vont voir sur un diagnostic de performance énergétique que c'est un confort d'été très faible, donc en fait on est sujet à être une bouilloire thermique. Dans ce cas-là, ça va influencer leur acte d'achat. Et donc moi, je crois fortement aussi à cet outil marketing qu'est le DPE, au-delà même d'être un outil d'interdiction du logement, cet outil marketing pour les futurs acheteurs qui vont faire la différence, qui font la différence sur la partie des charges, puisqu'effectivement, on sait que quand on est dans une passoire, on a des charges plus importantes énergétiques, mais aussi sur le confort et notamment le confort d'été. Donc, je pense que le marché peut aussi faire son œuvre sans même arriver forcément à l'interdiction dont on voit qu'elle est quand même compliquée à maintenir.
Mais quand même, avec un indicateur peut-être un peu plus fiable, parce qu'aujourd'hui, vous regardez, je crois, allez, on doit avoir 60-70% des DPE qui mettent un confort d'été insuffisant. Donc, est-ce que c'est la réalité ou pas? Et ce que vous disiez, Pierre-Louis, c'est que c'est compliqué à déterminer. Aujourd'hui, il prend quoi en compte cet indicateur de confort d'été dans le DPE?
Grosso modo, c'est le niveau d'isolation global de la maison. C'est est-ce que la maison est traversante ou pas? C'est également la présence de brasseurs d'air. On ne prend pas du tout en compte, par exemple, dans le DPE, la présence de climatisation, ce qui est quand même un moyen de se rafraîchir. Et c'est quand même dommage, puisque c'est assez efficace aussi.
Ah, la boucle qui boucle la boucle, quand même, Pierre-Louis, sur la clim, il y revient quand même.
Aujourd'hui, il y a, je crois, un quart des maisons qui sont équipées d'une climatisation, et il y a un peu moins dans les appartements. Je crois qu'on est autour de 15%. Donc, c'est sûr que forcément, on va être sur des logiques où ça va augmenter, et donc, ce serait important de pouvoir le prendre en compte pour pouvoir déterminer le confort d'été, parce que c'est vrai que on voit la différence quand on a une climatisation ou une PAC RR ou quand on n'en a pas.
Et bah oui, et puis en plus, c'est dans le mot, hein, confort d'été. Il ne s'agit pas de se poser la question de savoir si je rejette de la chaleur dans la rue, mais bon, quand même, c'est horrible ce que je dis. Mais soit dit en passant, encore une fois, on redit pour finir et boucler la boucle sur la clim, c'est à peu près la même chose que pour la PAC RO, j'ai envie de dire. Si votre isolation, elle est pourrie, votre clim, vous allez l'utiliser à fond, hein, on est d'accord?
Complètement, on est exactement sur la même logique. Pour pouvoir bien dimensionner ces pompes à chaleur, qu'elles soient RO ou RR, c'est à partir de l'isolation, donc de l'état initial du logement. Donc autant faire les choses dans le bon ordre, d'abord isoler et après installer une pompe à chaleur, qu'elle soit RO ou RR.
Et ça, faut bien prendre en compte le confort aussi. C'est pas uniquement est-ce que il fait très chaud ou pas, c'est aussi est-ce que par exemple dans votre chambre à coucher il va faire très chaud, là où dans votre salon il va faire très frais. En fait, il faut prendre la maison dans son ensemble. C'est vraiment la question qu'on se pose chez Argile à chaque fois. Comment est-ce qu'on va comprendre ces structures? Si je peux ajouter un point aussi que je trouve important.
Très rapidement, Pierre-Louis, parce que Alban, il a fait démarrer le
lancement des écoles. Donc là, on vient maintenir le brevet. Et en fait, il y a aussi tout un ensemble de structures. Il n'y a pas que la maison qu'il faut adapter en urgence. C'est toutes ces structures publiques qui sont quand même des grosses bouilloires thermiques également.
On est bien d'accord pour toutes celles et ceux que j'embrasse et qui gardent leurs enfants aujourd'hui à domicile pour ne pas les mettre à l'école. Alors qu'il n'y a même pas d'officielle interdiction à ce stade dans certaines communes, je pense à Paris par exemple. voilà, merci à tous les deux, Pierre-Louis Gure, cofondateur et CEO d'Argile, et Audrey Zermati, directrice de la stratégie Défi, d'être avec nous aujourd'hui dans les experts de l'IMO qui reviennent demain sur BFM Business à l'heure de votre déjeuner.
Les experts de l'IMO sur BFM Business.